La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, existe-t-il des sociétés sans père ni mari ? Une société peut-elle fonctionner sans père ni époux ? Bien sûr que non, ont longtemps répondu les anthropologues, car si les choses pouvaient être autrement qu'elles sont, cela se saurait ou se verrait. Mais en réalité, ce n'est pas si clair. Sans doute avez-vous lu, comme moi, qu'il existerait au moins un groupe humain, composé d'hommes et de femmes rigoureusement célibataires, d'hommes et de femmes qui délaisseraient donc la famille telle qu'on la pense et telle qu'on l'organise en général. Ce groupe humain, c'est l'ENA. Non, pas l'École Nationale d'Administration, dont les élèves n'ont jamais rien inventé de nouveau, que je sache en matière de liens familiaux ou de structure de la parenté, quoique. Non, je vous parle d'ENA de Chine, d'ENA qui s'écrivent N-A, ce peuple de quelques dizaines de milliers de personnes qui vivent dans les montagnes froides du Sichuan, pas très loin du lac Lugu. La langue d'ENA ne contient pas de nom pour définir le père ou le mari. Cela ne veut pas dire qu'il ne ferait pas d'enfant. C'est même la manière originale qu'a cette petite ethnie d'agriculteurs d'avoir puis d'élever des enfants qui a suscité l'intérêt des ethnologues puis des touristes. Car dans la société Na, tout enfant fait automatiquement partie de la lignée de sa mère. Les sœurs et les frères travaillent et vivent ensemble, dans la même maisonnée, toute leur vie. D'une certaine manière, les frères occupent la place des maris, au sens où ils collaborent à l'éducation des enfants de leurs sœurs. Les géniteurs des enfants, en général non clairement déterminés, n'ont ni droit ni devoir envers leur progéniture et ne sont donc pas considérés comme des parents. Dans la culture des Na, un dicton affirme que l'action de l'homme dans la reproduction est analogue à celle de la pluie sur l'herbe des prairies. Elle fait pousser rien de plus. L'homme n'est en somme qu'un arroseur qui fait pousser un fœtus qui est déjà présent dans le ventre de la future mère. Heureuse théorie, pour une société où ni la paternité ni l'institution du mariage ne semblent exister. Mais cela soulève une interrogation. L'interdit de l'inceste étant strictement observé, les Na ont certainement dû inventer des modalités originales des pratiques sexuelles. La question est lesquelles ? Chez les Na, plus de la moitié des hommes et des femmes vivent en effet sous le régime du Nana-CC, qu'on peut traduire par « visite furtive ». La nuit, les hommes se glissent dans le lit des femmes des maisonnées alentour. Les uns comme les autres se font un devoir de n'être ni jaloux ni fidèles, ce qui, j'imagine, ne doit pas être évident tous les jours, ni d'ailleurs toutes les nuits. Mais tout ce que je vous raconte là et que j'ai lu, est-il vraiment vrai ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une vulgate pour des clients touristiques ? Pour le savoir, le mieux serait d'écouter quelqu'un qui a vécu avec l'ENA, et ce quelqu'un, il se trouve que je l'ai trouvé. En fait, ce n'est pas un quelqu'un, mais une quelqu'une, qui n'est pas n'importe qui, et qui s'appelle Pascale-Marie Milan. Bonjour Pascale-Marie Milan.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes doctorante en anthropologie à l'Université Lyon 2 et à l'Université Laval au Québec. Ça sent la co-tutelle, tout ça?
Oui.
Et donc, vous préparez une thèse sur l'ENA.
Oui.
Peuple de Chine. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce peuple? Vous le connaissiez à l'avance ou est-ce que c'est un directeur de thèse qui vous a dit « Tiens, il y a quelque part l'ENA, ça devrait vous intéresser ».
C'est plus un chemin personnel, en fait. J'ai voulu apprendre le chinois, je trouvais ça très exotique. Et puis, mon professeur me montre un film très exotique sur l'ENA et je me dis « C'est là-bas qu'il faut que j'aille ».
C'est bizarre parce que quand on entend l'ENA, on pense tout de suite à l'ENA.
Oui, tout à fait.
Alors, comment est-ce que ça se passe quand on veut... s'installer comme ça dans une communauté? Comment est-ce qu'on fait pour convaincre ceux qui vous accueillent que vous n'êtes pas un touriste, ou une touriste en l'occurrence?
Ouais, c'est un processus qui est plutôt compliqué. La première fois que je suis arrivée là-bas, c'est sûr que j'étais prise pour une touriste. Donc le but, c'était de se défaire finalement de cette position qu'on m'assignait. Donc on se défait d'un appareil photo, par exemple, on se défait peut-être des objets un peu trop ostentatoires qui montrent qu'on a un pouvoir économique. Et puis, on essaye d'aller chez les gens, de manger avec eux, de discuter avec eux, etc. C'est quelque chose qui est pas forcément aisé. Et pour moi, ça a mis bien 2 bons mois. Et puis, comme on dit toujours en anthropologie, on a un informateur privilégié qui nous ouvre les portes. Et en l'occurrence, j'ai rencontré un Taïwanais qui vivait là-bas et qui m'a ouvert les portes d'une maisonnée. Et depuis, c'est là-bas que je vais tout le temps.
Alors, on dit souvent qu'un ethnologue ou une ethnologue, c'est un autre qui n'a pas été invité.
Tout à fait, tout à fait. Et tout l'art, c'est d'essayer de faire comme si on avait été invité et de faire en sorte qu'on nous invite encore et encore par la suite.
Mais alors, j'ai bien lu votre livre. Les nains ne parlent pas le chinois, ils parlent une langue qui n'a pas de traduction écrite.
C'est ça.
Et donc, comment est-ce qu'on fait pour apprendre une langue qui n'a pas de traduction écrite?
Alors, déjà, avec toute la sinisation qu'il y a eu, en fait, en Chine, par l'école notamment, aujourd'hui, ils parlent chinois.
Ils sont bilingues.
Ouais, avec un gros accent. Et même, les plus jeunes tendent à parler que chinois aujourd'hui. Donc ça, c'est problématique. Et après, le fait de vivre dans le quotidien, d'être avec les gens, on commence à apprendre comment on dit « qu'est-ce que c'est ?» Tse Adzunye. Et derrière, en fait...
Vous pouvez répéter ?
Tse Adzunye.
Et ça veut dire ?
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ?
Et à partir de ce moment-là, en fait, on pose des questions sur tout et on demande de, qu'est-ce qu'est tout, en fait. Donc, voilà, on commence comme ça et puis on apprend les rudiments, en fait, en mangeant, en partageant du temps avec eux. Et puis, au fur et à mesure, on commence à élaborer des phrases plus construites, etc.
Vous avez passé combien de temps là-bas ? En une seule fois ? En plusieurs voyages ?
En plusieurs voyages. C'est quand même compliqué de pouvoir rester longtemps en Chine pour faire des recherches. Il faut toujours des visas, il faut toujours se débrouiller un petit peu. Et du coup, en tout, j'ai passé un peu plus de 2 ans.
Alors, ce qui m'intéresse toujours quand j'entends un récit comme le vôtre, c'est la première journée. Voilà, on arrive, on a une valise, j'imagine, un sac à dos.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? À qui on parle? Dans quel état psychique est-on? Est-ce qu'on est paniqué, heureux?
On pense qu'on va y arriver, qu'on va pouvoir discuter directement avec les gens. Et puis en fait, quand on arrive avec un sac à dos, généralement en fait, on nous prête beaucoup de choses, et notamment ce pouvoir économique fort. Et moi, la première fois où je suis arrivée dans un petit village touristique, et on m'a emmenée directement dans une guest house où il y avait justement un Anglais, enfin quelqu'un qui était de langue anglophone en tout cas, et qui pouvait m'accueillir et discuter avec moi. Il faut dire aussi que mon chinois à l'époque était vraiment rudimentaire, j'avais l'impression de le parler très très bien, mais en fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte que les dialectes locaux, etc., influencent tellement la langue que c'est difficile de se faire comprendre. Et puis, une fois arrivé, il faut essayer de s'acclimater, essayer de rencontrer un peu de monde, etc. Mais je vous avouerai que la première fois que je suis arrivée là-bas, j'avais envie de repartir. Les coutumes étaient tellement différentes qu'il y avait des choses qui étaient difficiles, et notamment avec les touristes chinois, quoi.
Par exemple ?
Les touristes chinois sont, et puis les Chinois en général, hein, sont connus pour cracher beaucoup par terre, jeter beaucoup de choses par terre, traiter souvent le personnel un petit peu de manière condescendante. Et ça, moi, j'avais vraiment ça en horreur, quoi. Je voulais essayer de quitter les endroits touristiques pour aller finalement avec d'autres gens et voir d'autres choses, quoi. Et notamment les nains.
Et oui, vous êtes arrivé en connaissant déjà cette société. Vous aviez vu un film, peut-être même aviez-vous lu des ouvrages.
Ouais.
Donc, quand on a comme ça une certaine connaissance a priori, est-ce qu'elle est efficace tout de suite ou est-ce qu'elle ne cesse pas d'être démentie par ce qu'on observe, par ce qu'on voit, par les contacts qu'on peut avoir?
En l'occurrence, on dit souvent donc que c'est une société sans père ni mari, qu'il n'y a pas de mariage. Et en fait, ça, c'est la première image qui arrive quand on est sur place et on a l'impression de le voir. Pourquoi ? Parce que finalement, dans la rhétorique touristique, on nous ressort tout le temps, en fait, ces mots, ces façons de dire.
Et même un livre, je crois, qui porte ce titre.
Oui, qui porte ce titre. Mais sauf que c'est problématique parce que quand on vit en fait un bon nombre de temps avec eux, on se rend compte que dans chaque maisonnée, il y a des configurations spécifiques et qu'il y a toujours un équilibrage genré des maisonnées. Et que on ne pratique pas forcément la visite nocturne, que parfois il y a des formes de mariage, donc c'est pas des mariages comme nous on l'entend, mais on fait venir par exemple un homme ou une femme et on fait une sorte de banquet pour célébrer ça. Parfois on adopte des enfants et tout ça, en fait, finalement, rend la société très complexe. Et on ne peut pas la réduire à une société qui serait sans père ni mari, sans mariage.
Mais ça veut dire quand même que cette diversité des modes de relations familiaux suffit à montrer que le mariage n'est pas un invariant anthropologique. Il y en a des mariages, d'après ce que vous dites, mais ils ne concernent qu'une petite fraction de ces populations.
Alors, historiquement parlant, en fait, ils concernaient l'aristocratie. Avant, c'était divisé en aristocrates, gens du commun qui travaillaient en fait dans les champs, et puis des esclaves. Et en fait, la coutume s'était installée notamment par l'arrivée des Chinois, qui demandaient à ce que les personnes qui dirigent la société, donc les Tutsis, transmettent les biens par les fils. Sauf que cette forme, en fait, qui a amené au mariage, n'a jamais mis en cause l'idéologie matrilinéaire. Et du coup,
matrilinéaire, ça veut dire
la filiation par les mères, en fait.
C'est équivalent à un matriarcat ou c'est différent?
Non, c'est différent. Le matriarcat supposerait en tout cas que les femmes auraient le pouvoir, sauf qu'on se rend compte que les femmes n'ont pas de pouvoir au sens où elles décideraient tout, puisqu'elles décident avec tout le monde, en fait. Et elles prennent la vie en compte de tout le monde. Le matriarcat, c'est un peu une illusion, une sorte de mythe, en fait, qui est projetée sur eux et qu'on sort tout droit, en fait, des théories de Bachofen ou des Amazones.
Mais alors, qui a le pouvoir politique? Ce sont les hommes. Est-ce qu'il y a un pouvoir politique? Si tout le monde discute avec tout le monde de toutes les questions, est-ce qu'on peut parler de pouvoir politique de quelqu'un ou d'une lignée particulière?
À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a des pouvoirs partagés dans les maisonnées. Chaque maisonnée, en fait, prend des décisions. C'est certes les femmes qui les prennent en dernier, ces décisions-là, et notamment les dabous, celles qui dirigent les maisons. Mais diriger ne veut pas dire, à un moment donné, imposer quoi que ce soit. C'est vraiment une discussion.
Mais vous avez parlé d'une aristocratie. Ça veut dire qu'il y a une filiation par le père, j'imagine, qu'on doit pouvoir dire oui. Un tel est le fils de tel autre. Ce qui veut dire que la notion de père est reconnue quand même chez les nappes, bien qu'on dise le contraire dans les dépliants touristiques dont je parlais tout à l'heure.
Alors, contrairement à ce qu'on croit, il y a un mot pour dire père. Et ce mot, c'est le même que le mot pour dire oncle maternel.
Oh, c'est quand même pas net.
C'est pas net. C'est pas net et ils ont pas du tout les mêmes fonctions, on va dire. Le père, l'oncle maternel s'occupe des enfants, pourvoit aux biens économiques de la maison pour que les enfants puissent vivre, etc.
J'ai pas dit de bêtises dans mon chapeau. Quand j'ai dit que les frères des mères s'occupent des enfants comme des pères.
Tout à fait. Donc c'est un père social, quelque part. Par contre, la notion de père biologique, comme nous on l'entend, ils ne l'entendent pas du tout de la même manière. Vous l'avez très bien dit, ce sont des arroseurs. Donc ils n'ont en rien à voir avec la conception de l'enfant. Par contre, comme il y a une relation qui s'établit en fait avec la femme, et notamment il y a une relation, on va dire, beaucoup plus ostentatoire qui s'établit du moment qu'il y a des enfants. Et derrière, la femme peut, à un moment donné, changer de partenaire. Ça, c'est pas un problème. Mais cet homme qui partage les nuits de la femme a un droit de regard sur les enfants, dans le sens où il a le droit de leur apporter de l'affection, des cadeaux.
Mais ça n'est pas contractuel.
Ce n'est pas contractuel.
Il n'est pas lié à la mère de l'enfant par un contrat qui lui donnerait des obligations.
Et c'est toute la différence qu'il y a avec notre société. Dans nos sociétés, à nous, il y a une sorte de contrat économico-sexuel, en fait, entre un homme et une femme, qui fait qu'il y a une liaison économique. Chez l'ENA, il n'y a pas de liaison économique.
Pascal, Marie Milan, vous avez dit... Pour eux, l'embryon, en fait, l'enfant, il est préconçu. Et l'homme n'est là que pour l'arroser.
Oui.
Bon, ça, c'est une croyance dont on sait qu'elle est fausse, enfin, je crois. Et comment est-ce que cette croyance peut se maintenir et permettre la stabilisation de ce système de relations qui est basé sur cette croyance?
D'abord, pour nous, elle est peut-être fausse pour la simple et bonne raison que on associe souvent la parenté à la consanguinité biologique. Or, on le sait depuis Lévi-Strauss, la consanguinité est aussi culturelle. Et puis, beaucoup d'autres ont travaillé aussi sur ce sujet-là pour bien montrer que les peuples, finalement, qui nous sont le plus éloignés, peuvent à un moment donné concevoir la vie, le tissu social autrement. chez Léna, c'est une croyance très très forte de dire qu'à un moment donné, il y aurait un dieu qui peut mettre une graine en fait dans le ventre de la mère et que elle ne demande qu'à germer en fait cette graine-là. Alors Tsairoa parle de d'Abaogdou, qui serait ce dieu qui mettrait cette graine-là. Et le problème qu'on peut rencontrer en fait quand on fait du terrain, c'est de se confronter à d'autres formes de savoir. Et en étant une femme, j'ai beaucoup discuté avec les femmes de ces questions-là. Et moi, elles me disaient plutôt que c'était Jitse Joma qui apportait en fait cette petite graine dans le ventre de la mère et qu'il fallait la prier. Et moi-même, je devais la prier puisque je n'ai pas d'enfant pour pouvoir engendrer plus tard un enfant.
Il y a quand même l'idée que plus on arrose, si vous me passez l'expression, plus il y a de chances qu'il y ait un enfant.
Tout à fait. Et c'est pour ça
D'où les visites nocturnes qui peuvent être...
Tout à fait.
Fréquentes, faites par des hommes différents.
Tout à fait, c'est
on
ça.
On peut en changer. Alors, qui décide quand ça s'arrête?
Ça, c'est une question compliquée. Ça dépend à chaque fois, on va dire, des personnes. Mais je vais vous raconter une anecdote pour essayer de l'illustrer. Moi-même, en étant une femme,
visites nocturnes.
J'ai été confrontée, en fait, à cette visite. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parfois, c'est des groupes de jeunes qui venaient à six, en fait, finalement, dans la chambre. Parfois, c'était un homme seul. Et il me proposait, en fait, soit de choisir un homme, soit de passer la nuit avec moi, tout simplement. Alors, c'est quand même compliqué pour pouvoir refuser ce genre de choses. On trouve plein de stratagèmes. En tout cas, on les trouve. Hein.
Par exemple. Parce que 6, c'est beaucoup quand même.
6, c'est beaucoup, oui. Mais c'est très intéressant ethnographiquement parlant. Et c'est tout l'avantage d'être une femme. C'est que du coup, ils rentrent dans la chambre. On n'a pas vraiment trop notre mot à dire. Hein. Ils s'installent, ils s'assoient sur le lit. Et puis là commence la discussion. Donc pour moi, quelque part, c'était intéressant de pouvoir passer du temps avec eux et de discuter finalement de cette visite nocturne,
vous
de ces modalités.
Vous avez profité pour faire de l'ethnologie finalement.
Exactement, c'est ça. Et puis ils nous apprennent comment ça se passe, que la femme doit servir de l'alcool aux hommes et puis ce faisant, en choisir un à la fin de la visite, quoi.
Bon, on va pas vous demander trop de détails, mais quand même, il y a ce rapport qui est intéressant entre le savoir que vous avez accumulé a priori par des lectures, par des témoignages ou des films, et puis ce que vous observez. Ce que vous avez observé, comment auriez-vous pu le comprendre si vous n'aviez pas déjà lu des choses sur cette ethnie? J'imagine que ça aurait demandé beaucoup plus de temps. Et puis réciproquement, ce que vous avez lu à l'avance, que ça ne fournit pas une grille de lecture de ce que vous observez, qui, même si elle est démentie par l'observation, restera autoritaire.
Ouais. Alors, de toute façon, quand on fait de l'anthropologie, il y a beaucoup de gens qui ont écrit avant nous. On ne peut pas passer outre en fait ces écrits-là. Notamment sur l'ENA, il y a quand même la monographie de Tsairoa, mais pas que. Il y a des monographies chinoises, américaines. Il y en a quand même beaucoup. Donc, à un moment donné, on est obligé de passer par ces lectures-là pour comprendre la société. Le seul problème que ça peut poser, c'est de ne pas voir finalement, on va dire, le réel, ce qui se passe au quotidien. Et tout l'intérêt de l'anthropologie, du moins de l'ethnologie, est d'aller chercher ce réel-là par une méthode très inductive. Et moi, j'ai choisi en fait de le faire par l'interlocution, c'est-à-dire de pouvoir discuter avec les gens, d'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire et d'essayer de créer un dialogue pour que finalement la connaissance que j'ai de cette société passe par leur point de vue à eux et pas par des théories qui se suffiraient à elles-mêmes et qui pourraient expliquer le tout de manière idéale typique. Et
j'imagine que si l'on en passe par votre méthode, qui est de discuter avec des personnes, peut-être même de leur proposer des questionnaires, on doit être confronté à une complexité irréductible, au sein de laquelle on n'arrive pas à trouver des axes de compréhension qui soient pertinents.
Ouais.
On peut être noyé par les témoignages.
Je pense qu'on peut être noyé par les témoignages, en fait, finalement, des personnes. Mais le but, c'est peut-être à un moment donné d'apporter de la complexité à cette société. Parce qu'on, comme vous l'avez dit, on a tendance à la voir comme une société sans père ni mari, sans mariage. Or, dès qu'on se confronte finalement à la parole des personnes, on se rend compte de toute la complexité qu'il y a dans leur relation sociale à eux, dans ce qu'ils tissent au quotidien avec leurs amants, avec leurs amis, etc., avec leur famille, dans les maisonnées, etc.
Mais vous comprenez pourquoi on les a caricaturés à ce point ?
Mais on les a caricaturés aussi parce qu'à un moment donné, en Chine, au moment où on a commencé à systématiser les études sur l'ENA, on les a classés finalement dans une sorte d'évolutionnisme social où ils répondaient finalement à une case des théories d'Engels. Et l'idée, c'était de dire c'est un matriarcat. Et pour dire que c'était un matriarcat, il fallait mettre l'emphase sur cette coutume
sexuelle. Sur l'exception, en faire une exception.
Sur les exceptions. Or, il y a de la variation. Il y a de la variation parce que finalement, si on regarde les choses autrement que du point de vue de Lévi-Strauss, en termes de structure de parenté, on se rend compte que dans le quotidien, il y a des exceptions à la règle. Et qu'elles ne sont pas que des exceptions. Qu'elles sont beaucoup trop présentes pour pouvoir dire une seule chose sur l'organisation
sociale. Donc là, vous parlez d'une complexité dans le présent. Il y a des modalités de relations qui sont beaucoup plus complexes que la réduction qu'on a pu en faire. Mais est-ce que ça a été vrai aussi dans l'histoire ? C'est-à-dire, est-ce que pour autant qu'on puisse le savoir, ils ont toujours eu ces relations complexes ? Ou bien est-ce qu'ils sont passés par des phases plus classiques de mariage, sous l'effet de la Chine, par exemple du pouvoir autoritaire ? Je crois que Marco Polo parle d'eux, non ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il en raconte ? Est-ce que c'est la même chose que ce que vous avez vu ? Aux ordinateurs près ?
Oui, alors... Marco Polo en parle, vous avez aussi beaucoup de missionnaires qui sont allés là-bas et qui en parlent, mais souvent avec un point de vue un peu moralisant, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces coutumes qui ont l'air un peu barbares, où on ne connaît pas les pères, etc. Derrière, vous avez les ethnologues chinois, vous avez d'autres anthropologues qui ont travaillé sur le sujet et qui ont travaillé par exemple sur les généalogies et qui sont remontés jusqu'à l'époque des Qing pour essayer de comprendre comment, à un moment donné, s'organisait à ce moment-là la société. Et on se rend compte, dans leurs écrits, qu'il y a des variantes aussi. C'est-à-dire qu'il y avait soit de la visite nocturne, soit des mariages, soit d'autres formes, peut-être parfois un peu plus complexes. On fait venir quelqu'un pendant un temps, puis il repart dans sa maisonnée.
Alors ces visites nocturnes, le mot, je crois, c'est nana cécé, ce qui j'ai parlé na, non ?
Oui.
Et ça veut dire quoi ? Nana cécé ?
Alors, c'est visite furtive. Mais tout le problème, en fait, de la langue na, c'est une langue idioglossique. Ce qui veut dire que d'un village à l'autre, on ne parle pas la langue de la même manière. Du moins, il y a des variantes.
Les mots
des
ou l'intonation, l'accent ?
Alors, sur l'intonation et sur les mots en eux-mêmes. Par exemple, ce fameux qu'est-ce que c'est qu'on dit au lac Lugu. Quand on va aller en fait à Lijiazui, beaucoup plus loin dans les montagnes, va devenir Tsiyijo.
Je comprends pas plus que la première fois.
Ouais. Mais il y a une petite variante en fait dans l'intonation qu'on met, dans le finalement.
Et vous avez réussi à maîtriser toutes ces variations ?
Le fait de passer du temps là-bas, en fait, on les découvre, ces variations. C'est ça qui est intéressant. Après, j'ai beaucoup été aidée par un linguiste qui s'appelle Alexis Michaud et qui m'a expliqué, en fait, ce phénomène-là, puisque lui avait travaillé sur la langue.
Alors, je vais me permettre de citer Lao Tzu, qui disait « Celui qui prend du recul voit clair, celui qui est trop près ne voit que du brouillard. » Est-ce que c'est pas un dicton pour les ethnologues, ça ?
Oui.
Alors on pourrait même le paraphraser en disant « Celui qui prend du recul ne comprend rien » ou surinterprète « Celui qui est trop près ne voit que du brouillard. » Comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne distance qui permet une forme d'objectivation, sans être complètement imbriqué à la société dans laquelle on est et qu'on voudrait étudier. Surtout à mesure que le temps passe, vous avez passé 2 ans au total, je crois.
Oui.
Au bout de 2 ans, on doit faire partie du village, non ?
Oui. Mais c'est ça qui est très compliqué.
Et comment est-ce qu'on peut rester ethnologue en faisant partie du village ?
Le mot maître, on va dire, de la méthode de terrain en anthropologie, c'est l'observation participante. L'observation, quelque part, c'est justement mettre de la distance. C'est essayer de regarder les choses avec du recul. Mais la participation, quelque part, elle implique le chercheur sur le terrain. Et toute la question est de trouver le juste milieu entre ces deux choses. Et c'est vrai que, en passant du temps là-bas, on finit par beaucoup participer. Moi, pour ma part, j'ai été accueillie dans une maisonnée et considérée comme un membre de la maisonnée. Ce qui implique forcément des liens émotionnels, des sentiments qui se créent. Et quelque part, je pense qu'on peut tirer un avantage, en fait, de ces sentiments, de ces émotions, etc. Parce qu'elles permettent justement de parler des choses dont on ne parle pas beaucoup, et notamment de l'intimité. Jamais j'aurais compris comment pouvait fonctionner finalement cette visite nocturne, ou comment pouvaient fonctionner ces liens entre les amants, si j'avais pas moi-même dévoilé comme ma vie sentimentale à mes interlocuteurs, et s'il n'y s'était pas passé cette interlocution.
Et vous avez compris par exemple que, bon, moi je l'ai dit dans mon introduction, mais il me semble que ça ne peut marcher que s'il n'y a pas trop de jalousie.
Ouais.
Bon, la fidélité, j'ai l'impression, n'existe pas beaucoup, mais est-ce que c'est... Parce que s'il y a de la jalousie, c'est la guerre civile. Donc comment est-ce qu'on peut maintenir ce système ?
Alors, peut-être
comment est-ce que les gens en parlent ? Est-ce qu'ils en parlent ? J'ai cru comprendre que cette société qui est sexuellement très libre est aussi très pudique. C'est-à-dire, ouais, on ne parle pas trop de qui on a comme amant.
Alors, le problème qu'on peut avoir, en fait, avec les nains, c'est de projeter des choses sur eux. Et notamment... On va dire que l'amour tel que nous on le conçoit est quand même très tributaire de cette vision un peu romantique qu'on retrouvait à l'époque victorienne en Angleterre. Et on projette en tout cas sur l'ENA cette idée qu'il n'y aurait pas de jalousie.
Je répète pour ceux qui prennent l'émission en cours de route que l'ENA, c'est pas l'École nationale d'administration, c'est cette peuplade qu'on appelle l'ENA, N-A, qui vit en Chine, près du Tibet.
Oui. En fait, toute la question de la jalousie, à mon avis, est une projection un peu surfaite, une sorte de fantasme. Il existe de la jalousie. Je l'ai vu de mes propres yeux. On n'en parle pas directement parce que ça serait mal vu. D'un point de vue, on va dire, moral, ça serait quand même indécent de dire pourquoi cet homme-là n'est plus avec moi ou pourquoi cette femme-là n'est plus avec moi et d'avoir des réactions publiques, en tout cas, de jalousie. Par contre, quand on discute avec les gens, bien sûr qu'il y a des moments où on parle de jalousie, on parle du fait que cet homme-là pouvait être bien ou que cette femme-là pouvait être bien et qu'on est déçu de ne plus être avec la personne. Mais peut-être la question est dans le degré, finalement, de cette jalousie. Comment, à un moment donné, nous, on pourrait, dans nos sociétés en tout cas, mettre une emphase très forte sur ce sentiment. Et pour eux, c'est quelque chose, finalement, qui glisse.
Mais comment est-ce que vous arrivez, vous, qui venez de France, donc, comment est-ce que vous arrivez à entrer dans ce système ? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous observez est indépendant de votre regard, de votre façon de regarder, de votre façon de participer à la vie collective ?
Et non, il n'est pas du tout indépendant, ça c'est sûr. Quand on parle d'interlocution, à un moment donné, on tombe dans la subjectivité. Et je crois fermement qu'il faut, à un moment donné, prendre en compte cette subjectivité, mais avoir une réflexion sur elle et se demander d'où elle vient. Et elle vient, à mon avis, de quelque chose de très simple, du regard qu'il porte sur nous. Donc du coup, de la position qu'il nous assigne. Et vous savez très bien qu'être une femme blanche... avec des yeux clairs, avec des cheveux clairs en Chine, apporte un contraste vraiment fort. Et moi, on a projeté beaucoup de choses sur moi. On a projeté, par exemple, des mœurs sexuelles très très légères dans les régions un peu plus touristiques. Parce qu'il y a beaucoup d'images des femmes occidentales qui sont véhiculées.
Donc on a fait de l'ethnologie sur vous.
Oui, exactement. Et en retour, moi, j'essaye de prendre un positionnement, d'essayer de leur dire quelque chose de moi, pour pouvoir changer ce regard-là et créer finalement un dialogue.
Donc il faut changer de référentiel, comme dirait un physicien, ou bien de logiciel, comme dirait un informaticien.
Ouais.
Et on arrive à faire ça, sans devenir schizophrène.
C'est peut-être un processus un peu schizophrène hein, quand même de faire de l'anthropologie. Du moins la méthode est quelque part un peu schizophrène, avec cette distanciation nécessaire et avec cette idée qu'on doit quand même s'impliquer dans la société. Après il y a beaucoup d'anthropologues qui sont attachés depuis des années à essayer de montrer comment la subjectivité pouvait être quelque chose d'heuristique finalement pour la connaissance qu'on a de ces sociétés. Et le premier c'est Georges Devreux, qui a essayé de montrer que finalement la relation qui se jouait entre deux personnes était forcément subjective et que le but c'était de créer une intersubjectivité.
Et en même temps une réflexion sur elle-même.
Oui.
Oshé sinami ni milati tuze kamo hakono jipu kadala numjahi ama hatsi zo chenefu a
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein. Alors dans votre livre Pascal Marie Milan, qui s'appelle Léna, j'ai oublié de le dire, il s'intitule Léna, il y a beaucoup de photos qui montrent un peu comment vivent ces gens, mais comme nous sommes à la radio et pas à la télévision, il faudrait en parler un peu plus. Ce sont des agriculteurs. Comment sont structurés les villages, qu'est-ce qu'ils cultivent, comment est-ce qu'ils travaillent?
Alors, l'idée que j'ai eue, c'était pour essayer de dresser un portrait finalement d'Ena, c'était de prendre une unité sociale et politique, un village, et d'essayer de montrer le fonctionnement qu'il y avait dans le village. Et ce qu'on découvre finalement...
Alors, village, c'est combien d'habitants pour fixer les choses?
Alors là, pour le village, c'est 456 habitants à peu près. Voilà, plus ou moins dépendamment des personnes qui partent, qui changent de maisonnée, etc. Le but, c'était de montrer finalement que dans le village, certes, il y a cette coutume, certes, il y a les maisonnées, elles ont des types d'organisation particulières, mais il y a aussi de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a de l'entraide, de l'échange, alors de l'entraide dans les travaux d'agriculture, de l'échange, en fait, finalement, de ce qu'on peut produire. Et puis, il y a du religieux aussi, il y a énormément de cérémonies qui aident à structurer finalement ce politique-là. Et je pensais que c'était la meilleure façon peut-être de restituer cette complexité dont on parle, pour montrer finalement que dans les maisonnées, il y a des liens qui se tissent avec d'autres maisonnées, puis il y a aussi des confrontations parfois où on n'est pas forcément d'accord.
Est-ce qu'il y a une police?
Alors, dans le village en lui-même, il n'y a pas de police. Mais par contre, on est en Chine et dans tous les villages, en fait, il y a un chef de village qui rend des comptes à un autre chef et puis ainsi de suite.
Mais comment est-ce que le pouvoir central chinois, dont on connaît la force, regarde ce genre d'exception, de singularité c'est une sorte de village gaulois, finalement, à sa manière.
À sa manière. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, en Chine, on a d'abord essayé, en tout cas pour l'ENA, de les faire se marier, de les faire devenir monogames. Donc ça, c'est toute une campagne, en fait, qu'il y a eu dès 1956, sous Mao. Et, en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'ils continuaient, finalement, de pratiquer cette coutume. Et ça, ça a été problématique. Jusqu'au moment où on arrive dans les années 80, où la Chine s'ouvre au monde et décide, finalement, de se servir du tourisme pour engranger, en fait, de l'argent. Le tourisme arrive dans les années 90 au lac Lugou et finalement c'est le tourisme qui va changer ces mœurs en fait si particulières. Et ce sont les Na par eux-mêmes qui vont se mettre à se marier et à adopter des coutumes beaucoup plus chinoises que ce qu'ils faisaient auparavant.
Alors qu'on aurait pu nous s'inspirer d'eux.
Oui, il y a beaucoup de gens que je pense qui s'inspirent
d'eux. Pratiquer les gîtes nocturnes.
Oui. Mais finalement, si on devait le comparer à notre société, moi je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. On a beaucoup de changements dans nos sociétés aujourd'hui sur la manière dont se tissent les relations amoureuses. Et c'est peut-être pas des visites nocturnes, mais il y a beaucoup de visites qui se créent.
Mais simplement, Moi, j'ai cru lire qu'on signe la politique de l'enfant unique, qui est en train d'être abandonnée, mais en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut imposer cette politique quand les modes de relation sont ceux que vous avez décrits?
Ça, c'est quelque chose de plus ou moins compliqué, mais vous savez, les minorités en Chine ont le droit à avoir plus d'enfants que les Han. Et pour le cas des Na, en fait, ils ont le droit d'avoir 2 enfants. Le problème qu'on retrouve finalement dans les campagnes, c'est que parfois, pour des questions de contraception...
Mais ça, c'est un droit qui ne vaut que pour les femmes, puisque les pères sont pas déclarés ou inconnus.
Oui, mais vous avez... Alors, c'est tout un système complexe, hein, mais vous avez le système aussi du Roku, qui dit qu'à un moment donné, vous avez tant de personnes dans votre famille. Alors, chez les Na, il y a 2 formes. Hein. Ça dépend de si on est du côté Sichuan ou Yunnan. Si on est du côté Sichuan, en fait, on a un certificat de mariage, et on doit, à un moment donné, placer les enfants sous le chapeau du père et de la mère. Alors ça, c'est la forme chinoise qui est imposée, donc eux jouent un peu avec ça, mais bon. Du côté du Yunnan, en fait, ils sont beaucoup plus souples, parce qu'ils se sont servis, en fait, de la caractéristique des Na pour le vendre au tourisme. Donc ils n'avaient aucun intérêt, finalement, à les obliger, en tout cas dans les années 80-90, à se marier ou à avoir ces certificats de mariage, etc. Ça existe quand même. Vous avez quand même des certificats de mariage qui montrent qu'il y a des pères, mais ce ne sont pas forcément les mêmes pères qui fréquentent la mère d'aujourd'hui. Enfin, ça rend le système un peu complexe.
Est-ce que vous pensez qu'à terme, il y aura une sorte de normalisation? Que les Nas seront comme les autres?
Alors,
ou est-ce qu'il y a une résistance culturelle très forte, un attachement à la coutume?
Ouais. J'ai envie de dire que moi, je ne pense pas. Pas dans le sens où je n'ai pas d'avis, en fait, vraiment sur le sujet. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui sont plus âgées, elles ont vraiment peur que la société se délite, en fait. Elles ont peur notamment parce que souvent les vieilles femmes ont peur parce que les filles partent des maisons et vont vivre à la ville. Et du coup, il n'y a plus personne pour vivre dans la maison. Or, la maison est la structure de base, finalement, de la société. Tout s'organise autour de ça. Après, pour les plus jeunes, le problème qu'on rencontre, c'est cet attrait finalement pour la modernité, cet attrait pour cette vie amoureuse qu'on nous fait croire parfaite, romantique, etc. Et là, on a de plus en plus de jeunes qui se marient, qui partent des maisons, etc. Certains s'en rendent compte, certains y voient un problème, d'autres pensent que c'est du coup inéluctable et que la société va changer.
Il faut quand même qu'il y ait des jeunes femmes dans les maisonnées pour que le système de maintien de la société telle qu'elle est continue.
Ouais.
Donc il y a quand même un risque de...
En tout cas, dans la région touristique, il y a un risque vraiment fort que la société, le tissu social de la société, quelque part s'effondre. Dans les régions qui sont plus reculées, ça semble un peu plus difficile parce que la monnaie, enfin l'argent, ne sont pas présents de la même manière. Il y a toujours ces formes un peu d'économie de subsistance qui persistent, etc. Même si l'arrivée du tourisme se sent et même si les gens commencent à partir beaucoup plus pour aller travailler à la ville, etc. Pascal-Marie Milan, lorsque je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai indiqué que vous étiez doctorante, donc vous êtes en train de préparer une thèse en co-tutelle. Quel est le sujet de la thèse? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'elle sera bientôt soutenue, comme on dit? Alors, le sujet même de la thèse, donc c'est un titre un peu pompeux. Tourisme et changement social chez les Na de Chine, étude comparée d'une coutume sexuelle. Donc le but, c'est de comparer cette coutume entre 2 villages, l'un touristique, l'un qui ne l'est pas, et de pouvoir finalement apporter quelque chose de nouveau sur ce que l'on sait des Na.
Alors on dit les Na de Chine, ça voudrait dire qu'il y en a ailleurs qu'en Chine?
Non, mais je pense que c'est pour préciser la localisation.
Alors vous en êtes où là? Vous êtes en train de rédiger? Vous allez repartir?
Je suis en train de rédiger, c'est la période la plus compliquée, hein. C'est celle où on doute le plus, et normalement je devrais pouvoir soutenir en septembre.
Voilà. Et ensuite vous retournerez là-bas pour présenter les conclusions de votre thèse?
Oui.
Un séminaire chez Léna?
Un séminaire, oui, pourquoi pas. Apporter ce livre, en tout cas, déjà. Mais le seul problème qu'on a, c'est qu'il n'est pas traduit en chinois, et ça pose un problème.
Il y a quelque temps, nous avions reçu à ce micro Philippe Descola qui nous expliquait que pour choisir d'être ethnologue, il faut avoir la conscience d'un décalage entre soi et la population qu'on étudie, et que les facultés d'observation nécessitent d'avoir appartenu à une société au sein de laquelle on sent que c'est pas tout à fait la sienne. Par exemple, il faut avoir été un catholique chez les Anglais ou un protestant chez les Français. Vous-même, est-ce que vous êtes dans cette catégorie? Qu'est-ce qui peut donner envie de devenir ethnologue? À un moment où tout le monde voyage, où on peut aller à peu près n'importe où, et faire de l'ethnologie en amateur. D'ailleurs, Philippe Descola disait qu'un ethnologue, c'était un badaud professionnel. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition?
Oui, je pense qu'il y a un décalage, hein, finalement, avec le monde qui nous entoure. En tout cas, on le sent, je pense, un peu tous, mais peut-être que c'est plus fort pour les anthropologues. Et il y a une phrase très connue de Margaret Mead qui dit que un sociologue, s'il fait ces études-là, c'est parce qu'il a un problème avec la société, un psychologue avec lui-même et un anthropologue avec les deux.
Et un physicien?
Là-dessus, je vous laisse conclure.
Pascal-Marie Milan, je vais vous avouer une chose, j'ai jamais lu de thèse d'anthropologie ou d'ethnologie, je ne sais pas à quoi ça ressemble, c'est que du texte. J'imagine qu'il y a une partie théorique, une partie qui relate l'expérience de terrain, une comparaison entre les deux, une synthèse, une conclusion peut-être. Comment ça se passe pour vous? Où est-ce que vous en êtes?
Alors, pour être en co-tutelle, en fait, à la fois au Québec et en France, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait des différences, hein, dans la manière dont on écrivait la thèse, dans la manière dont on devait amener finalement l'ethnographie. Ça peut être problématique. Bon, après, on essaye de s'en accommoder ou pas. Pour ma part, en tout cas, j'ai choisi de partir d'abord sur de la méthodologie, d'expliquer finalement ce terrain, comment il s'est passé, comment il s'est construit, pour pouvoir après, derrière, revenir sur ce que l'on sait d'ENA. Donc, pour pouvoir alimenter finalement cette thèse des théories qui lui précèdent et d'en amener un regard nouveau, qui serait un peu plus pragmatique, un peu plus basé sur l'ordinaire, le quotidien de ces gens-là. Derrière, ce qui est en tout cas essentiel à faire, c'est d'apporter cette ethnographie. Et puis derrière, de monter quelque part en généralisation, sans pour autant créer des généralisations qui seraient justement problématiques et qui enlèveraient les variations, les contextes d'énonciation, la parole des gens, etc.
Mais en général, je pense que c'est vrai pour toutes les disciplines. Quand on écrit, apparaissent de nouvelles questions.
Oui.
Alors comment vous faites quand une nouvelle question apparaît? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Vous pouvez envoyer un mail pour poser votre question et vous avez une réponse? Ou est-ce que ça vous donne envie d'y retourner?
On a toujours envie d'y retourner, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Et tout le problème, en fait, d'un doctorant, c'est peut-être d'être tellement dans le doute qu'on est tout le temps en train d'essayer de compléter nos données. À un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter et il faut essayer de faire avec ce qu'on a. La chance que j'ai pour moi, c'est que j'ai une amie, Na, qui vit en fait à Annecy et qui, si vraiment j'ai des questions trop importantes et surtout sur la langue, hein, je peux lui passer un coup de fil. Donc ça, c'est l'avantage.
Vous avez Na à domicile presque.
Oui, presque à domicile. Une bonne amie, surtout. Ouais.
Et donc, ça veut dire que vous pouvez aussi avoir des contacts avec eux? Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont, Internet, j'imagine?
Oui.
Donc vous pouvez communiquer à distance.
Oui, mais ça, c'est quelque part c'est l'avantage, on va dire, de la mondialisation. Hein. C'est ces réseaux qui sont beaucoup plus courts qu'avant grâce à Internet. Et vous savez, tous les Chinois ont cette petite application qui s'appelle WeChat où il suffit de parler en fait à son interlocuteur au téléphone. Oui, on peut communiquer facilement.
Après, c'est pas un truc assez fascinant de voir que il y a en effet la mondialisation dont vous parlez, les mêmes instruments pour communiquer à peu près partout. Et malgré ça, on maintient une diversité de coutumes, une diversité culturelle qui semble absolument irréductible. Ce qui veut dire que l'ethnologie a un avenir devant elle. Alors qu'on pourrait imaginer, enfin, c'est ce que pensait Lévi-Strauss, hein, que quand il y a 1 milliard d'individus, c'est intéressant, quand il y en a 7 milliards.
Toutes les sociétés dans le monde sont en mouvement. Elles bougent tout le temps, elles sont tout le temps confrontées finalement à cette mondialisation. En tout cas, ça n'existe plus une tribu ou un groupe ethnique qui serait au fin fond de la forêt et qui serait complètement coupé du monde. C'est très très souvent une illusion. Quand vous allez au fin fond de l'Amazonie, vous vous rendez compte que tout le monde porte des shorts Adidas ou qui boivent du Coca-Cola comme nous on pourrait le faire ici. Donc il y a aussi cette illusion qui est souvent entretenue finalement par... beaucoup d'émissions hein, et beaucoup d'images qui parlent finalement de ces peuples comme des gens isolés. Or, c'est plus le cas. Et tous ces peuples-là, finalement, il y a beaucoup de travaux qui ont pu le montrer, prennent ces éléments finalement qui viennent d'ailleurs, prennent ces éléments de la modernité et les transforment. On appelle ça l'indigénisation. Ils transforment finalement ce qu'on leur amène pour pouvoir le mélanger avec les formes traditionnelles que eux ont. Et du coup, il y a cette dichotomie de tradition-modernité, elle est un petit peu obsolète, elle n'existe pas vraiment. On est tout le temps dans des reconfigurations et qui sont à des moments très très précis. Hein. Et c'est tout l'intérêt de l'anthropologie, c'est d'étudier ces configurations.
Alors Philippe Descola nous disait à ce même micro, je le rappelais tout à l'heure, exister pour un humain, c'est différer. Est-ce que ça veut dire que même si la mondialisation s'accentue, les populations trouveront toujours un moyen de se distinguer ? En détournant certaines façons de procéder, en gardant des coutumes, en les adaptant.
Oui. Alors après, ça dépend en fait de quel point on parle. Est-ce qu'on parle des individus ou est-ce qu'on parle des groupes ? Et là, je pense que les processus sont un petit peu différents. Nous, dans nos sociétés, on est dans des sociétés où on a un mode de fonctionnement très individuel. Je pense que ça marche très bien, cette citation, pour parler de nos sociétés. Par contre, est-ce qu'à un moment donné, quand on est dans des sociétés où le groupe prime sur la personne, on peut parler de la même manière. Oui, peut-être quelque part, dans le sens où le groupe se transforme en une sorte d'unité un peu morale qui essaye d'établir des frontières avec ses voisins. Et quand on parle des nains, par exemple, ils sont pas les seuls à habiter en fait dans la région du lac Lugu. Hein, où vous avez des Yi, vous avez des Pumi, vous avez des Han, des Tibétains, vous avez plein d'autres groupes ethniques. Et tout le jeu, en fait, est de montrer finalement... les spécificités du groupe par rapport à l'autre. Sauf que dans le cas des Na, ce qui est très très intéressant, c'est que quand on récolte les histoires de vie des vieilles femmes, des mères, des dabous, etc., on se rend compte qu'elles peuvent expliquer que leur mère venait d'un autre groupe ethnique, que leur père venait d'un autre groupe ethnique, etc. Mais ce qui comptait, en fait, c'était le fait de faire groupe. Et c'est ça que j'ai trouvé d'ailleurs le plus intéressant. C'est qu'on était na parce qu'on était ensemble à un endroit, on partageait en fait des rites, on partageait une économie, on partageait des décisions. Et voilà tout l'intérêt finalement d'étudier des villages en eux-mêmes.
Alors qu'est-ce qui fait là ? Parce que c'est ce que vous dites là, on le retrouve dans beaucoup d'autres ethnies, j'imagine. Est-ce que, du point de vue sexuel, ce qu'on a raconté, qui vaut pour les na, se retrouve dans d'autres situations que vous connaissez ? Ou est-ce qu'ils sont vraiment singuliers ? Le fait que, avec toutes les nuances qu'on a apportées au cours de l'émission, ils sont quand même une société dans laquelle il n'y a pas vraiment de père pour tout le monde et pas de mari pour toutes les femmes.
On a projeté sur eux beaucoup de choses, hein, ça on est d'accord.
Parce qu'on les enviait ou parce qu'ils nous gênaient d'un point de vue moral ?
Je pense qu'ils gênaient d'un point de vue moral. Hein. Et puis, quelque part, il y avait aussi des projections, et là, pour le coup, un peu de jalousie. C'est-à-dire que, vous savez, en Chine, actuellement... finalement, cette forme de visite nocturne devient une sorte d'idéal romantique que les Chinois voudraient pratiquer pour ne plus être enfermés finalement dans la notion très confucéenne du couple, en tout cas en Chine. Sauf qu'on se rend compte, dans toute cette région du Kham, qui est une région historique finalement du Tibet, vous avez beaucoup de groupes ethniques qui pratiquent ce type de visite. Alors parfois, ce sont des visites qui se passent avant le mariage, parfois elles continuent finalement tout au long de la vie. Vous avez par exemple des Garong qui pratiquent cette visite nocturne, et un anthropologue qui s'appelle Tenzin Jinba qui en a parlé. Et vous avez aussi... Stéphane Gros, Chen Bo, qui parlent en fait de ces régions-là et justement mettent en comparaison le Kanna avec les cas tibétains.
Mais est-ce que dans la vie quotidienne, donc, là je parle plus de la nuit, mais de la vie sociale dans la journée, comment sont les relations entre les hommes et les femmes ? Est-ce que si j'arrivais là-bas, Et je n'assistais à leur vie que dans la journée. Je verrais des différences avec un autre village qui vit selon des coutumes complètement différentes pour ce qui est des relations sexuelles.
Je pense qu'on verrait pas de différence parce que, comme vous l'avez aussi très bien dit, les nains ont cette pudeur de ne pas parler finalement de ces choses relatives à la sexualité. Dans le quotidien, ils s'évitent. Les garçons, les filles s'évitent, à moins que justement il y ait des occasions pour pouvoir se voir, se parler, etc. Et ces occasions sont des occasions de justement d'entraide au champ, d'entraide à la construction des maisonnées, ou lors des fêtes nocturnes qui sont célébrées à la fin, par exemple, d'une construction de maison, ou pour des rituels pour chasser les mauvais esprits. Il y a vraiment des moments propices pour qu'ils se rencontrent, et dans la journée, ils s'évitent totalement pour pas que leur famille, finalement, les blâme de quoi que ce soit ou d'une quelconque
relation.
Donc
les relations entre les hommes et les femmes sont concentrées dans la période nocturne.
Ouais.
On en revient toujours à ces visites-là, mais ouais. C'est quand même un truc fascinant.
Non, mais c'est quand même fascinant.
J'ai une question, là. Est-ce que les visites sont annoncées? Ou est-ce qu'on fait toc-toc et on prend rendez-vous ou pas?
Alors, oui et non. Ce qui est très intéressant...
Oui et non, ça veut dire quoi, oui et non? On prend rendez-vous ou pas?
On prend pas forcément rendez-vous. L'anecdote que je vous ai racontée, finalement, elle le décrit aussi très bien. Les personnes qui sont venues me visiter, je ne les connaissais pas. Du moins, je les connaissais dans la vie quotidienne, mais jamais, à un moment donné, ils ont évoqué de venir me visiter. Et en discutant, finalement, avec un de mes interlocuteurs là-bas, j'ai appris que, en fait, les hommes se parlent entre eux, demandent où est la chambre, et le simple fait de passer dans le village la journée peut provoquer finalement une visite nocturne.
Mais ils savaient pourtant que vous n'étiez pas une na, si j'ose dire.
Ouais.
Et donc peut-être que vos coutumes, ils savent que les coutumes à l'extérieur sont différentes.
Ouais. Mais le fait de passer du temps là-bas, on n'est plus un hôte comme les autres finalement. Le fait de parler la langue, ce sont plein de petits micro-processus qui amènent les gens à croire que en tout cas les choses peuvent se passer de la même manière. Quand je suis arrivée en fait par exemple à Lijiazui où se sont passées ces visites nocturnes.
Alors là c'est un nom que vous avez prononcé, c'est le nom du village où vous étiez.
Oui.
Bon, je le dis pour les auditeurs et les auditrices, ça s'écrit L-I-J-I-A-Z-U-I et ça se prononce
Lijiazui.
Bon, ben, je vous laisse le faire.
Oui. Quand je suis arrivée dans ce village-là, en fait, je parlais déjà la langue na. Alors, certes, avec un autre accent qui venait du lac, je parlais chinois. Et du coup, je connaissais déjà finalement les mœurs, les coutumes locales. Je pouvais en discuter avec les gens. Et forcément, je pense que ça a amené finalement les jeunes hommes à croire que je pratiquais cette visite nocturne comme eux la pratiquaient.
Et pendant ces séjours qui ont duré pour certains plusieurs mois, vous êtes toujours senti bien ou il y a eu des moments de cafard, de désir de retour?
Bon, il y a toujours des moments de cafard. Hein. On a toujours quelqu'un qui nous manque, la famille qui nous manque, etc. Après, bon, on idéalise souvent en fait l'anthropologie et le travail de terrain, mais se retrouver au fin fond de la montagne dans des conditions hygiéniques qui sont pas forcément évidentes. Par exemple, à Lijiazui, les toilettes, c'est pas quelque chose de courant. Hein. Quand on veut aller aux toilettes, on va dans les champs ou dans la montagne. Ce sont des petites choses, des petits riens finalement inconfortables et qui peuvent parfois nous rendre nostalgiques et nous dire que bah, finalement notre confort à nous occidental est quand même voilà. On va pas se mentir, hein, tout n'est pas tout parfait.
On imagine bien, mais comment se passe le retour? Est-ce que c'est pas là aussi une sorte d'épreuve pour un ethnologue comme vous, une ethnologue, mais à l'inverse, c'est-à-dire vous avez du mal à vous réadapter à la société d'où
ouais.
vous venez?
Oui, bon, on garde des petites mimiques.
Vous allez dans les champs?
Non, on ne va pas dans les champs, mais oui, on garde des petits trucs finalement qu'on faisait sur le terrain. Ce que je dis souvent, c'est que quand je suis là-bas et que je sais que je vais rentrer, j'ai envie de rentrer. Quand je suis en France, quand je remets le pied en France, j'ai envie de repartir là-bas. Donc c'est tout le temps un jeu.
Vous êtes entre les deux?
Oui.
Ya 秋呀，此刻人也只花落呀。
哦，
对，哎，呀，这这算计，刚来秋了，落落了啊，不啊不啊不表呀，呀，娘妈就了，娘妈炸了哈，娘妈毛就是炸表呀。我就是扎比了哈姆萨尼哈普萨尼哈古呀。
Pascal Marie Milange, une dernière question. Est-ce que vous avez pu, au travers des conversations que vous avez eues là-bas, une idée de la façon dont ils nous perçoivent, nous, occidentaux? Est-ce qu'ils nous connaissent bien? Et comment ils se représentent notre vie? Est-ce qu'ils la désirent ou est-ce qu'ils sont fiers d'en avoir une autre?
Je pense que le principal problème du changement qui est en train de se passer dans cette société, c'est ce problème-là, finalement. Eux aussi projettent des choses sur nous, les voient à travers la télévision, etc. Moi, on m'a souvent dit que la France était un pays romantique, mais ça, c'est une image très courante hein, en Chine. Mais on a souvent projeté sur moi, finalement, des choses... me dire que finalement ma vie était plus confortable, était mieux, était plus intéressante, plus moderne, très souvent moderne, que j'avais des qualités finalement morales qui étaient différentes, etc. Mais je pense que ces projections-là sont aussi le résultat finalement d'une dévaluation qu'il y a des peuples minoritaires.
Une auto-dévaluation,
mais
enfin,
aussi...
On les aide un peu aussi, peut-être.
On les aide un peu, ouais. À leur montrer qu'ils ne sont pas modernes et qu'ils devraient tendre finalement vers la norme chinoise qui serait plus civilisée, du moins selon la Vulgate.
Alain Badiou parle d'un désir d'Occident. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se retrouver chez eux?
Oui, je pense qu'il y a un désir d'Occident qui est quand même très très fort. Et vous avez beaucoup de personnes qui justement essayent de partir, mais... Partir pas que à la ville en Chine, hein. Partir aussi ailleurs, voir d'autres horizons. Sauf que pour des minoritaires chinois, la chose n'est pas...
Et donc il y a beaucoup d'émigration, beaucoup de jeunes qui quittent le village, vous l'avez dit, mais pour la ville voisine ou ils vont parfois très loin?
En fait, ils peuvent aller autant à Beijing qu'à Chengdu, dans les villes, dans les grosses villes pour aller travailler, autant dans les sites touristiques du lac Lugu et des régions avoisinantes. Pour aller travailler, gagner de l'argent et le ramener à la famille.
Et comment ça se passe pour eux? Ils gardent leurs racines dans le village dont ils sont originaires? Ils y reviennent ou est-ce que c'est des exils définitifs?
Alors ils y reviennent souvent, notamment pour le Nouvel An chinois. Hein, ça c'est vraiment une coutume qu'on retrouve partout en Chine. Mais c'est vrai que parfois les liens se défont à tel point que on ne revient juste que pour ces grandes fêtes-là. Et on ne revient plus du tout... pour y vivre.
Merci Pascal Marie Milan d'être venu nous parler d'ENA.
Merci à vous.
On vous souhaite bon courage pour la fin de la rédaction de votre thèse. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac.
Yeah.
Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection privée par Michel Simon.